environnement favorable, il y a une participation du secteur privé. En tant que banque publique, c'est notre défi, réfléchir à comment attirer ces financements.
Il faut donc, je cite, « dérouler le tapis rouge au privé ». Et c'est une ambition clairement affichée par l'Afrique du Sud à la tête du G20 pour favoriser une croissance inclusive. Valentin Hugues, Le Cap, RFI.
RFI, 4h42 en temps universel. Bienvenue si vous nous rejoignez.
Afrique Matin sur RFI.
Restez avec nous, bien sûr. Le prochain journal international et le début de RFI Matin dans un petit peu plus de 13 minutes. Mais avant cela, le programme pour sauver la forêt de Bouskoura au Maroc, poumon de la capitale économique Casablanca menacée par la sécheresse. Ce sera notre reportage. Notre dossier Afrique Économie sur les difficultés des très petites et moyennes entreprises en Tunisie. Elles ont toujours du mal à rebondir depuis la page Covid. L'humeur de Maman qui nous parlera de sémantique ce matin, car selon lui, au Gondwana, eh bien, les mots disent souvent le contraire de ce qu'ils sont supposés dire. Mais d'abord, l'heure des sports comme tous les jours. Bonjour Florence Valmé.
Bonjour Sébastien.
Et du football avec vous ce matin, le premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026. Il s'est achevé hier avec la qualification de la RDC.
Les Léopards d'âme qui jouaient à Kinshasa se sont contentés d'un nul, 0-0 hier contre le Botswana, mais avaient assuré l'essentiel dès la première manche en l'emportant 2-0. Tout irait donc pour le mieux chez les Congolais si cette qualification n'avait pas été précédée d'un mouvement de grogne pour réclamer le versement de primes impayées à Kinshasa. Olga Massangou.
C'est une qualification au goût amer pour les Léopards d'âme de la RDC. C'est de justesse que les Congolaises ont accepté de jouer après un mouvement de grève pour réclamer leurs arriérés de primes. Fidéline Goy est leur capitaine.
Chez les garçons, ça ne se passe pas comme ça. C'est même chez nous les filles. C'est pas normal. Si on donne notre argent, on ne va pas réclamer, on ne va pas faire les vidéos. Moi, je demande seulement au président de la République, au ministre des Sports, de nous valoriser. Si on continue toujours comme ça, le prochain rassemblement, ça sera mieux de rester à la mesure de venir jouer.
Ce mouvement a même perturbé la préparation du match, car les Léopards n'ont eu qu'une seule séance d'entraînement avant le match retour. Lamiabou Mehdi, leur sélectionneur intérimaire, se satisfait tout de même de la qualification, même si la manière n'y était pas.
Tactiquement, je suis satisfaite parce que l'organisation défensive était bonne, mieux que le match aller. Malgré on n'a pas fait beaucoup de séances d'entraînement, mais on a essayé de régler ce problème juste avec les séances vidéo.
Malgré ce ticket arraché et la dynamique actuelle du football congolais, symbolisé notamment par le sacre du TP Mazembe Dam en Ligue des Champions et la qualification pour la CAN Maroc 2024, le football féminin peine depuis plusieurs années à trouver le financement et le soutien nécessaire en RDC. Olga Massangou Kinshasa, RFI.
La RDC qui aura pour adversaire l'Afrique du Sud lors du deuxième et dernier tour des éliminatoires.
Et un autre pays, Florence, poursuit sa route vers la CAN féminine, participera au deuxième tour des éliminatoires. Il s'agit du Burkina Faso.
Les étalons d'âme ont confirmé leur ascendant sur le Burundi en l'emportant 4-1 lors de ce match retour délocalisé à Bamako. Un large succès qui complète la courte vie. Victoire 1-0 de l'aller. L'ampleur de ce second résultat n'étonne pas le sélectionneur Pascal Sawadogo.
Il faut se dire que ce deuxième match, il y avait de l'engagement, il y avait de l'envie de gagner le match. Il y avait l'esprit d'équipe déjà dans les cas, dans les vestiaires. On sent vraiment que les filles étaient soudées. Si vous voulez que le football féminin aussi fasse de bons résultats, il faut nous mettre dans les bonnes conditions de préparation. Voyager le 20 et venir jouer le 23. Tout en sachant que les filles viennent des pays d'origine divers, c'était trop risqué. Vous voyez qu'au premier match, on a eu beaucoup d'occasions, mais on a trop raté. Je pense que ce soir, on a été plus réaliste que le match allait. Contre les Togo, c'est dans 8 mois. Il faut peut-être faire un bon programme, que nous puissions aussi aller pour une deuxième fois à la CAN.
Le Burkina qui affrontera le Togo au dernier tour des éliminatoires en octobre prochain. Parmi les autres résultats, le Cap-Vert s'est qualifié aux dépens de la Guinée. Victoire 4-1 en match retour. Qualification également du Togo aux dépens de Djibouti pardon, et du Kenya aux dépens de la Tunisie. Enfin, un mot du tour du Rwanda. L'Australien Brady Gilmore remporte la 3e étape à Gisenyi. On en reparle dans les prochaines éditions.
Évidemment, on vous retrouve tout à l'heure, Florence Valmé. Merci à vous.
RFI, toute l'actualité.
Sébastien Duhamel.
4h46 en temps universel, un coup d'œil sur l'actualité internationale et le Hamas qui a restitué cette nuit les corps de 4 otages israéliens morts à Gaza. Un premier bus de prisonniers palestiniens est arrivé en Cisjordanie dans la foulée. Sur les 600 qui doivent être libérés par Israël dans le cadre de l'accord de trêve à Gaza qui expire samedi. L'Union européenne a été conçue pour entuber les États-Unis. Les mots de Donald Trump hier, nouvelle déclaration choc du président américain lors de la première réunion de son cabinet à la Maison-Blanche. Le républicain a répété que les produits européens feraient l'objet prochainement de 25% de droits de douane. Et puis la Corée du Nord qui a envoyé des troupes supplémentaires en Russie et qui a déployé des soldats sur la ligne de front dans la région de Koursk. C'est ce qu'indiquent les renseignements sud-coréens. Une opération sauvetage à présent sur RFI pour secourir la forêt de Bouskoura au Maroc, le poumon vert de la capitale économique Casablanca, qui souffre de la sécheresse qui sévit depuis 7 ans. Manque d'eau, coup de chaleur, Bouskoura et ses arbres deviennent donc plus vulnérables aux maladies et aux insectes. Alors, un programme a été lancé en décembre dernier. Reportage du jour, signé Mathias Reynal.
La forêt est située à la sortie de Casablanca, une quinzaine de kilomètres du centre-ville.
C'est très fréquenté. On compte généralement 6000 promeneurs au printemps, le week-end.
Ça, c'est pour les pics de fréquentation. Au moment où nous traversons Bouskoura avec Irsan Amar, la chef du service animation et partenariat de l'Agence nationale des eaux et forêts à Casablanca, nous sommes en janvier. Et malgré le froid, la pluie, quelques sportifs font quand même leur footing, des familles se baladent.
Au territoire du Grand Casablanca, on a uniquement cette forêt. C'est un lieu très apprécié par les Casablancais, en quête de détente, de loisirs, d'air pur.
Bouskoura est ce qu'on appelle une forêt récréative. Elle compte de nombreux aménagements, des aires de jeu, des espaces pour pique-niquer.
Aziz Henfaoui, chef de district proximité de Bouskoura.
Veste, camouflage et pantalon olive, Aziz a commencé à veiller sur la forêt il y a 8 ans.
La forêt n'était pas dans cet état-là. Le virage qu'a connu la forêt, c'est à partir de 2021, malheureusement avec le changement climatique. Mais on va essayer de s'adapter afin de préserver ce patrimoine.
La forêt joue un rôle écologique majeur en tant que réservoir de carbone. Elle offre aussi une protection des sols et de la biodiversité.
Durant ces dernières années, on a constaté des dépérissements massifs au niveau de la forêt de Bouskoura, des mortalités d'arbres qui ont déclenché la sonnette d'alarme pour la nef.
Ismaili Rifqa est la directrice provinciale de l'Agence nationale des eaux et forêts, la nef.
Donc si on observe bien le paysage, le point sur le plan où on se trouve, à droite c'est un peuplement à base de pins d'Alep. On voit presque le ciel parce que les arbres ont perdu une grande partie de leur feuillage.
La sécheresse a rendu les arbres plus vulnérables aux insectes, aux champignons.
Les interventions au niveau de cette zone, on portait essentiellement sur les travaux de sylviculture. C'est un nettoyage qui se fait pied par pied. Il touche uniquement les arbres morts.
Le programme d'urgence de la nef est censé durer 2 ans et prévoit le reboisement de 147 hectares. Des espèces plus résistantes seront plantées comme le caroubier, un arbre local. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Notre reportage sur le sauvetage de la forêt Bouskoura à Casablanca, à retrouver sur Internet bien sûr. 7 mois désormais en Guinée que les proches de Fonike Menge et de Mamadou Biloba sont sans nouvelles. Dans ce contexte, l'ONG Amnesty International dénonce les disparitions forcées d'opposants et d'acteurs de la société civile qui se multiplient en Guinée. Le dernier cas, celui de l'opposant Abdoul Sakou, enlevé le 19 février à son domicile de Conakry, retrouvé en brousse dans un état critique après avoir été visiblement torturé. Souleymane Sow est le directeur exécutif d'Amnesty International en Guinée, de passage à Paris. Il est justement notre invité et il dénonce cette situation au micro de Christophe Boisbouvier.
Nous nous sommes très jeunes, mais pour ceux qui connaissent encore l'histoire de la Guinée, on ne pensait vraiment plus revoir des cas de disparition forcée dans notre pays. Et que maintenant, en plus de cela qu'on parle de cas de torture, il y a déjà eu des cas suspects, des cas de mort dans les prisons qui n'ont pas non plus été élucidés. Alors que la charte de la transition, quand vous prenez l'article 11 de cette charte, nul ne peut faire l'objet de torture, de peine ou traitement cruel, dégradant ou inhumain.
À la suite de ces actes de torture, ouverture contre l'opposant Abdoul Sakho, l'ambassade des États-Unis à Conakry vient de se déclarer profondément préoccupée et de demander une enquête sur les circonstances de cet enlèvement d'une grande violence. Est-ce que cette initiative américaine peut changer la donne?
Nous espérons, mais en plus de l'ouverture de cette enquête, nous irons demander qu'il y ait des résultats de ces enquêtes, parce qu'il y a énormément d'enquêtes annoncées sans qu'on ait des résultats.
Dans leur communiqué, les États-Unis demandent aussi une enquête sur la situation des autres disparus, sous-entendu Fonny Kemenge et Mamadou Biloba. Est-ce que les États-Unis peuvent être entendus par les autorités guinéennes?
Nous espérons bien que ce soit les États-Unis ou aussi les autres missions diplomatiques présentes en Guinée, où nous attendons aussi d'ailleurs la CDAO ou aussi l'organisation de la francophonie qui est très en contact avec les autorités guinéennes, parce que la Guinée est partie de beaucoup de textes internationaux.
Entretien de Christophe Boisbouvier avec Souleymane Sow, le directeur exécutif d'Amnesty International en Guinée, à retrouver plus en longueur dans une cinquantaine de minutes sur RFI vers 5h45 en temps universel. Notre rendez-vous avec l'économie africaine et direction ce matin la Tunisie, où les très petites et les moyennes entreprises ont encore du mal à se remettre de la pandémie de Covid-19. Beaucoup subissent les effets de l'inflation à 7% et de la crise économique qui dure. Ces petites entreprises représentent pourtant près de 80% du tissu économique tunisien. Mais 200 000 d'entre elles étaient en difficulté en 2023, selon l'association tunisienne des TPE et PME. Certaines ont une durée de vie n'excédant pas un an et demi. Et l'année 2024 n'a pas été meilleure. Afrique Économie à Tunis, Lilia Blaise.
Dans son restaurant de street food, El Koucha, dans le quartier de Menza 5 à Tunis, Emna Medguiche a l'air soucieux. Malgré le succès de son commerce, elle doit s'adapter chaque jour à la hausse des prix des denrées alimentaires.
Malheureusement, les deux dernières années ont été particulièrement difficiles parce que on fait face à une inflation à deux chiffres sur certaines matières. Je dirais que la dernière en date qui nous a mis vraiment en difficulté, c'est l'approvisionnement en volaille depuis l'été dernier et l'inflation des prix de volaille. Parce que, en gros, en Tunisie, ce qu'on faisait avant, c'est le prix bas de la volaille permet d'équilibrer les coûts de manière plus globale.
Jambes aussi. Okay.
Le prix moyen de la volaille a augmenté de près de 19% entre 2023 et 2024. Emna a dû réduire ses marges et fait aussi face aux autres conséquences de la crise économique.
La première, c'est la hausse des matières premières. La deuxième, c'est la main-d'œuvre qualifiée qui est en train de partir dans des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Maroc qui se prépare pour la Coupe du Monde, la France, l'Europe. C'est une grosse difficulté. Et la troisième, c'est la baisse de pouvoir d'achat.
Si Emna parvient à se maintenir à flot, d'autres ont dû prendre des mesures drastiques. Catherine Fournier, franco-tunisienne, dirige une petite entreprise dans le secteur des ressources humaines. Elle a subi une baisse d'activité car beaucoup d'entreprises ont coupé les budgets en matière d'externalisation du recrutement.
Moi, mon choix, ça a été notamment, par exemple, de passer en coworking space au lieu de garder un local en propre pour diminuer les charges. Ça, c'était le premier réflexe. Et puis, bon, bah, après, c'est effectivement de continuer d'essayer de faire de la croissance en développement au niveau commercial. Et puis d'essayer de créer peut-être plus de dynamique de partenariat.
Comme Emna, malgré un réseau professionnel développé, elle se sent à l'écart des systèmes de soutien financier.
Je ne dis pas qu'il faut nous passer certaines choses, ce n'est pas du tout le cas. On doit payer des impôts comme tout le monde, c'est normal. Mais peut-être que si on était un peu mieux traité et qu'on avait des systèmes un petit peu plus souples, ça nous aiderait à créer de la trésorerie. Parce que finalement, une TPE, voilà, on est toujours des sociétés de services et le cœur du problème, c'est la trésorerie.
Beaucoup ne peuvent plus répondre aux exigences en termes de garantie et donc n'arrivent plus à trouver des financements. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Allez, avant RFI matin, on retrouve l'humeur de Maman. Et Maman, très souvent au Gondwana, les mots disent selon vous le contraire de ce qu'ils sont supposés dire.
Oui, quand les mots sont bien utilisés, au moment et à la place qu'il faut, ils deviennent comme la nuit qui tombe. L'obscurité et l'opacité qu'ils charrient permettent à certains de fuir très très loin, ni vu ni connu. Par exemple, prenons un honorable monsieur sans tache sur son joli costume de serviteur de l'État et de la nation. Lorsqu'il est pris, la main dans le pot de confiture en pleine nuit, alors que toute la maisonnée est endormie, ne croyez pas qu'il dira « Excusez-moi, je croyais que... » que c'était l'heure du petit déjeuner. Ne croyez pas qu'il remettra le pot de confiture à sa place et, couvert de honte, retournera se coucher en promettant de ne jamais recommencer, promis juré sur la tête de sa maman. Hein. Ah, il fera jamais ça. Au contraire, il te regardera droit dans les yeux, la tête légèrement penchée sur le côté gauche, là où se trouve le cœur, et jurera donc que tout ce qu'il dira vient du cœur, justement, et que ce dont on semble l'accuser est totalement infondé, que les accusations ne reposent sur rien de tangible et que, incessamment sous peu, une enquête indépendante sera lancée pour tirer cette situation au clair et remettre les pendules sur le mur. Tu as vu et entendu, mon ami, une enquête sera lancée, une enquête indépendante. C'est la formule et les mots magiques, la formule pour fermer la bouche de tous les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile qui hurlent pour l'accabler, le lyncher et lui couper la tête. Et ça marche, hein ? Bah oui, qu'est-ce que vos cris peuvent faire contre une enquête indépendante ? Vous êtes obligé d'attendre. Le problème est que cette enquête, ben, c'est pas une soupe instantanée ou un café expresso, hein. Ben oui, il suffit pas d'appuyer sur un bouton et puis c'est servi. Non, par définition, une enquête, ça prend du temps, beaucoup de temps. Une enquête, ben, ça roule tout doucement, hein, comme s'il y avait des radars tous les 2 mètres, vitesse limitée à moins 10 km heure, c'est-à-dire que l'enquête avance en marche arrière et elle arrivera à destination quand les poules auront des dents. Elle te sort d'affaire en toutes circonstances, quoi que tu aies fait, l'enquête. Ton armée est accusée d'avoir massacré des civils sans défense, ben faut lancer une enquête. Hein. Une journaliste a pris une balle dans la tête de la part d'un de tes soldats, une enquête. Un ministre harcèleur, enquête. Un parlementaire qui parle et ment sur sa feuille d'impôt, enquête mon ami. Au moindre coup de vent, faut pas hésiter, faut lancer une enquête. Mais attention, il y a plusieurs types d'enquêtes. On vient de voir l'enquête indépendante, aussi appelée enquête escargot. Non seulement elle va lentement, mais en plus, quand elle rentre dans sa coquille, tu la revois plus. Puis, il y a l'enquête internationale, à déconseiller absolument. Parce que quand c'est international, là, tu ne sais jamais comment ça va tourner. Hein. Il vaut mieux opter pour une enquête interne. Là, c'est du tout cuit. Le linge sale se lave en famille. Circuler, il n'y a rien à voir. À lundi.
À lundi prochain, maman. Merci à Pauline Berthélémy et Olivier Roux qui étaient à la réalisation, à Pierre Pinto à la rédaction en chef. Merci à vous, bien sûr, pour votre fidélité à la Radio du Monde. On salue d'ailleurs ce matin Freddy Mpenda qui nous écoute depuis Fungurume en RDC. Il nous a écrit sur l'adresse africematin@rfi.fr. Restez avec nous, RFI Matin, dans une minute. Excellente matinée à tous.
Couleurs du son et RFI Talent présente Naïssam Jalal en concert. À l'occasion de la sortie de son dernier album Healing Rituals, autrement dit Rituel de guérison, retrouvez la flûtiste franco-syrienne sur la scène du New Morning à Paris le 27 février à 20h. Plus d'infos sur newmorning.com.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Aujourd'hui,
la baisse de la natalité devient un phénomène mondial. Alors que les pays rivalisent de politiques visant à limiter la baisse des naissances, qu'en est-il de leur efficacité ? Faut-il vraiment s'inquiéter d'un futur sans enfants ou au contraire en saisir les opportunités ?
8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.